Écho d'économie, Jocelyne Moussaou.
Bienvenue à ces échos d'économie. Vous suivrez au cours de cette émission des interviews et beaucoup d'informations avec vous, Berry Louchaka.
Beaucoup d'informations en national et en international, Jocelyne. Nous serons avec Guy Roger Niampala au bout du fil pour parler du conflit au FIDA cet été.
Et faut-il, oui ou non, observer un moratoire dans l'attribution de permis de recherche minier en RDC? Nazar Koko a suivi de près l'atelier organisé autour de cette question, qui nous propose tout à l'heure un dossier sur ces sujets. Et l'invité de l'économie ce soir est Okene Jules. Il est auditeur à la Banque Centrale du Congo. Il est intervenu hier à la rencontre des hommes d'affaires du plein évangile sur les stratégies des mobilisations de ressources financières. D'abord, les informations nationales, 6 millions de dollars américains pour la RDC.
C'est le montant que la Banque arabe pour le développement économique en Afrique vient d'allouer aujourd'hui à la RDC, rapporte le site internet African Manager. Ces 6 millions de dollars seront destinés au financement du projet de réhabilitation des écoles primaires dans le pays. La signature de cet accord a eu lieu entre le directeur général de cette institution financière et l'ambassadeur de la RDC au Soudan, monsieur Mohamed Tchombo. Ce prêt est remboursable sur la période de 30 ans avec un taux annuel de 1%. Et avec ce prêt, il y a ce nouveau prêt, Jocelyne, le volume des financements accordés par la BADEA pour la RDC se chiffre à 47 millions de dollars américains.
Le processus de stabilisation des entreprises du secteur de transport difficile.
C'est le constat qui se dégage à l'issue d'une réunion entre le COPIREP et les administrateurs de ces entreprises. La Société Nationale des Chemins de Fer, par exemple, attend toujours du gouvernement le décaissement de 80 millions de dollars promis pour cette période de stabilisation. C'est l'administrateur délégué général de la SNCC qui l'a dit et Freddy Struman dit attendre ses fonds pour payer les travailleurs.
L'association des creuseurs des puits miniers de Mississi se plaint.
Mississi, c'est un territoire de Fizi au sud Kivu. Cette association dénonce l'ingérence des autorités locales dans la gestion des creuseurs. Selon son président, certains services de l'État agissent en complicité avec les soldats FRD pour rançonner et tracasser les creuseurs. L'administrateur du territoire reconnaît les faits. Cependant, Célestin Moana Chimé dit avoir donné l'ordre à la police de remettre de l'ordre dans cette situation.
Le commerce du quinquina envahit les espaces au détriment du café dans le secteur de Butembo Lubero.
Cette plante occupe la première place sur le plan de la rentabilité devant le café et le bananier. Les plantations paysannes du quinquina s'étendent sur une superficie d'environ 12 000 hectares. Estiment les responsables de l'ONC Centre Butembo.
Et bientôt la réhabilitation des routes et des desserts agricoles à Mbujimayi.
En tout cas, les engins du gouvernement central sont arrivés depuis hier. Comme vous l'avez dit, Jocelyne, ces tracteurs vont servir à la réhabilitation des routes et desserts agricoles. Ce matériel sera entreposé à l'office des routes en attendant leur affectation dans divers territoires.
La nouvelle économique au bout du fil.
Direction Bas-Congo, où l'on retrouve au bout du fil ce soir Guy Roger Niampala. Vous êtes présentement à Matadi. Les consultants de la firme CTC n'ont plus accès à leur bureau au port de Matadi. Cette firme américaine travaille à côté de l'OFIDA depuis l'année dernière pour la maximisation de ses recettes. Guy Roger, qu'est-ce qui oppose les deux parties? Je me rappelle qu'il y a eu un problème d'une lettre que CTC avait adressée à l'OFIDA, lui signifiant son retrait d'une commission chargée de rédiger un texte sur la réforme de la douane. C'est donc cela dont il est question, Guy Roger ?
Oui, Jocelyne, en fait, tout est parti de cette correspondance, mais d'après l'échange que nous avons eu avec le président de la délégation syndicale de l'OFIDA Bas-Congo, il a dit clairement que les agents de l'OFIDA du port de Matadi ne sont plus contents du travail de CTC. Ils ne voient pas l'expertise que CTC prétend apporter pour la maximisation des recettes. Hein, ce sont ses propres mots. Mm-hmm. Et les agents ont, selon lui, comme l'impression que CTC est en train de faire le travail des douaniers. Alors, à la question de savoir si les agents de l'OFIDA ne s'inquiétaient de la présence de CTC parce que celui-ci mettait à jour des cas de fraude dont certains d'entre eux seraient impliqués. L'inspecteur Mufanda, qui est le président de cette délégation syndicale, a totalement rejeté cette manière d'analyser les choses.
Et que disent les consultants de CTC à ces sujets?
Oui, Jocelyne, Madame Sénédorta, c'est la directrice de communication de CTC, a confirmé que les consultants de la firme n'ont plus accès à leur bureau au port de Matadi et qu'un conseiller du Premier ministre chargé des questions de douane est arrivé à Matadi à ce sujet. S'agissant du travail de CTC au port, il se fait, selon Madame Dorcas, que par rapport, d'après ce qu'elle a dit, par rapport au contrat que sa firme a signé avec le gouvernement. Alors, il s'agit, selon elle, d'un groupe des gens qui ne veulent pas la réforme dans le secteur douanier en RDC et ces derniers veulent, affirme-t-elle, s'impliquer dans la fraude et dans la sous-évaluation, chose que CTC ne peut pas accepter selon elle.
Et une dernière question, Guy Roger, est-ce que cette mésentente entre CTC et OFIDA au port de Matadi a des répercussions dans les opérations douanières?
Pour l'instant, Jocelyne, il n'y a pas vraiment des conséquences, du moins au port de Matadi. Mais si cette situation conflictuelle perdure, estime un opérateur économique, les conséquences ne vont pas tarder à se faire sentir, Jocelyne.
Affaire à suivre donc.
Exact.
Merci beaucoup Guy Roger et bonne soirée à Matadi.
Merci.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka.
En Afrique, Berry, la dette extérieure du Mali a considérablement baissé.
Cette dette s'élevait en 2008 à 800 milliards de francs CFA contre un peu moins de 1800 milliards de francs CFA en 2002. C'est ce qui fait du Mali aujourd'hui l'un des pays les moins endettés sur le continent africain. Cette performance est due aux efforts déployés par le gouvernement malien et par les partenaires du Mali, dont certains ont annulé leurs dettes vis-à-vis de ce pays.
Et la Chine pourrait vendre 11 millions de véhicules cette année.
Le quotidien officiel China Daily affirme qu'au cours des 5 premiers mois de l'année, plus de 3 millions de voitures ont été vendues dans le pays. Sur le seul mois de mai, plus de 800 000 véhicules passagers ont été vendus, un record mensuel en hausse de 55%.
Et pour terminer avec vous, Berry, comme pour le pétrole, les cours des métaux de base se ralentissent aussi.
La tonne du cuivre qui a terminé la semaine dernière à plus de 5 000 $ connaît une légère baisse. Hier à la fermeture, la tonne de cuivre revenait à 4 940 $ américains. L'étain a également atteint 14 700 $ vendredi, redescend aujourd'hui à 14 670. Les cours de ces métaux sont affectés par une reprise du dollar.
Merci beaucoup Berry Luchaka pour ces informations et Écho d'économie se poursuit.
Écho d'économie, le dossier.
Faut-il, oui ou non, observer un moratoire dans l'attribution des permis de recherche minier en RDC? Cette question a été au centre d'un atelier la semaine dernière à Kinshasa. Motif, des milliers de permis de recherche octroyés n'ont jamais produit assez de ressources pour le trésor public. Il règne un grand désordre et les plus grands perdants, c'est l'État congolais et ses populations. Comment remettre de l'ordre dans le secteur? C'est le dossier que nous propose Nazar Nkoko qui a suivi de près ces travaux. Alors Nazar Nkoko, combien de permis de recherche ont été déjà attribués à ces jours?
Selon le directeur général du cadastre minier Félix Mopandé, à ces jours, plus de 4 000 permis de recherche ont déjà été attribués, Jocelyne, ce qui représente 33% du territoire national. Cependant, une ONG katangaise a estimé que les milliers de permis de recherche attribués couvrent environ 64% du territoire national, du sud-est au nord-est, en passant par le centre. Et ce sont les parties les plus importantes en réserve minière qui ont déjà été accordées.
Et le rendement attendu vient-il, oui ou non?
En tout cas, les dividendes de cette manne minière ne suivent toujours pas. Motif pour mettre en valeur l'important potentiel du sous-sol congolais. Le gouvernement a promulgué le code minier depuis 2002, une loi voulue plus attractive aux investisseurs. Félix Mopandé du cadastre minier nous dit ce qui n'a pas marché.
Les investisseurs sont arrivés, mais l'État s'est attribué le rôle de régulateur à travers ses administrations. Les CAMI, délivrer les titres. L'administration, c'est le suivi et le contrôle. Mais il y a un problème, c'est que la chaîne des administrations n'a pas fonctionné convenablement pour réguler.
Et donc, Nazer, cet état des choses engendre plusieurs conséquences néfastes pour l'économie congolaise.
Sur terrain, s'enregistrent plusieurs conflits entre les détenteurs des permis de recherche d'une part, mm-hmm. et d'autre part entre ces détenteurs et les communautés locales qui estiment leurs droits bafoués. André Jonas, responsable de la division des mines au Kasaï occidental.
Un village a été déplacé, la population n'a joui d'aucune réparation. Ces gens-là sont jusqu'à ce jour en train d'errer dans la brousse et que leur concession, leur champ, même des sources d'eau, leur ont été privées. 421 permis de recherche. Le bilan, c'est nul.
Autre conséquence, Jocelyne, l'interférence des services de l'État non concernés par la question, tels l'ANER et les FRDC, les détenteurs des permis de recherche, se livrent aussi à une exploitation illicite et bien d'autres conséquences néfastes aussi.
Et donc, quelle solution alors?
Les ONG membres du réseau des ressources naturelles appellent à un moratoire sur l'octroi des titres. Georges Bokundu du Sarwa, observatoire des ressources naturelles en Afrique australe.
Nous avons estimé qu'on puisse d'abord suspendre, qu'on puisse contrôler les titres existants, qu'on puisse mettre des mécanismes pour les prochains octrois.
À ce moratoire, Jocelyne, les participants ont aussi proposé le renforcement des capacités de l'administration des mines et la lutte contre la corruption ainsi que la vulgarisation du code minier de manière à ce que les populations locales connaissent leurs droits et sachent bien les défendre. Mais pour le CAMI, le cadastre minier, il faut plutôt donner des moyens pour que l'administration minière fonctionne normalement bien et c'est la tâche à laquelle devra s'atteler le ministère des mines.
Un dossier à suivre donc. Merci beaucoup Nazer pour ce dossier et Écho d'économie se poursuit.
L'entretien de ce soir.
Monsieur Okene, Jules, bonsoir. Vous êtes auditeur interne à la Banque centrale du Congo. Nous vous appelons parce que vous êtes intervenu hier à la réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Vous avez exposé sur les stratégies de mobilisation des ressources financières. Monsieur Okene Jules, c'est qu'on aimerait peut-être savoir c'est comment les opérateurs économiques peuvent-ils mobiliser des ressources financières en ces temps de crise.
La mobilisation des ressources financières n'est pas un problème de contexte. On peut le faire en temps normal comme en temps de crise. Et notre intervention hier a consisté à donner à ces hommes d'affaires les secrets pour que les institutions financières prennent en compte pour l'octroi des crédits ou des financements. Donc, en temps de crise, il y a quelque part où quelque chose ne va pas, mais il y a aussi quelque part où quelque chose va. Et donc, on peut mobiliser les ressources pour aller dans les domaines où ça va.
Et donc, quels sont ces secrets que vous avez livrés aux hommes d'affaires?
Je leur ai parlé d'abord de la relation. Ils doivent avoir une relation ou des relations continues et assez fidélisées avec les institutions financières qui traitent avec eux. Et lorsqu'ils évoluent dans une relation avec ces institutions ou banques, ils doivent confier des chiffres d'affaires significatifs à ces entités. Ce sont des données qui comptent pour la décision d'octroi de financement. Et lorsqu'on est en relation avec une banque, elle les regarde également à l'ancienneté de vos relations, parce que l'ancienneté est aussi un critère comme un critère de fidélité. On regarde aussi l'intérêt, la rentabilité ou l'intérêt que présente l'investissement qu'on veut entreprendre. Il y a aussi les secteurs d'activité dans lesquels on veut évoluer ou dans lesquels on évolue. Il y a également les autres activités du demandeur parce que d'une manière ou d'une autre, elles influent sur le crédit qu'on va lui donner. Il y a également les garanties que le demandeur de crédit doit présenter et les perspectives macroéconomiques à brève échéance sur le plan national et international comptent également pour qu'on puisse vous octroyer un crédit. Il y a aussi la réglementation de l'autorité de supervision. Les institutions regardent si le demandeur respecte ses instructions ou s'il est en contravention avec elles. Il y a aussi l'endettement du demandeur sur l'ensemble du système financier national. S'il est très endetté, les gens peuvent émettre des réserves pour lui donner, mais il y a aussi, enfin, le fonds de roulement qui donne une idée sur les moyens financiers dont dispose le demandeur pour rouler, dans le terme technique.
Donc, les ressources financières ne dépendent pas de temps ou de contexte, comme vous l'avez dit, mais actuellement, nous savons que les banques n'enregistrent pas beaucoup de bénéfices. Est-ce que ces banques octroient aujourd'hui facilement des crédits?
Ça dépend du domaine dans lequel vous vous présentez auprès de banques. Les banques sont en train de financer facilement les crédits d'achat de véhicules pour leurs clients qui sont avec eux. Mais lorsque j'ai parlé hier, c'était dans le contexte de notre pays, dans son entièreté. Vous savez peut-être que notre pays a un problème alimentaire et que l'industrie agroalimentaire est quasi inexistante chez nous. Et donc, quelqu'un qui demanderait un financement, par exemple, auprès du SPI ou de la Société financière internationale qui est de retour chez nous, pour monter une usine d'agroalimentaire ou bien monter une usine de produits pharmaceutiques. Mm-hmm. C'est un domaine dans lequel nous avons un gap à récupérer. Il aurait très facilement. Mais les banques commerciales, elles sont dans les activités commerciales, elles financent les activités commerciales où elles peuvent récupérer facilement. Il faut savoir qu'est-ce que vous cherchez et auprès de qui vous allez vous adresser.
Merci beaucoup, Monsieur Okene, Jules, d'être intervenu dans cette émission Écho d'économie. Je rappelle que vous êtes auditeur interne à la Banque Centrale du Congo. Vous êtes intervenu aussi hier à la réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Et c'est avec vous que nous terminons cette émission Écho d'économie de ce soir, présentée par Jocelyne Moussaou-Pondé, réalisée par Berry Luchaka, avec l'appui de Daniel Tambizoni, Nazaire Koko, Georges Kamujova et Nicole Ngaka. Merci, bonsoir.